RFI.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Si vous nous rejoignez, nous parlons de la remise en cause du diktat de la croissance comme seul horizon pour nos économies industrialisées ou en développement avec nos deux invités. Jean-Marie Haribet, économiste à l'Université de Bordeaux et co-signataire du nouveau manifeste des économistes atterrés, 15 chantiers pour une autre économie qui vient d'être publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Et Stéphane Kerkhoff, délégué général de Agir pour l'environnement et co-auteur du petit livre noir des grands projets inutiles publié aux éditions Le Passager clandestin. Alors Jean-Marie Haribet, on parlait dans la première partie de l'économiste Bernard Maris que nous avons entendu, et il écrivait que les théoriciens de l'économie industrielle sont une secte dont l'obscurantisme et le fanatisme donnent froid dans le dos. Ce sont ces théoriciens que l'on entend massivement encore aujourd'hui dans les médias, comme l'a dénoncé le formidable livre de Serge Halimi, Les nouveaux chiens de garde, qui avait d'ailleurs été adapté au cinéma en 2012.
Pour vous, Michel Godet, il faudrait oser envisager quoi ? Un abaissement du niveau du SMIC ?
Poser la question du SMIC, qui malheureusement, dans une économie ouverte, comme on l'est, et le sera de plus en plus, est un véritable fossoyeur de l'emploi, puisque le prix international du travail non qualifié, comme on dit chez les spécialistes, ne peut que baisser. Oui, l'objectif des entreprises...
Michel Godet est tout à fait représentatif de cette trentaine d'experts omniprésents dans l'espace médiatique. Comme lui, en effet... Presque tous siègent au conseil d'administration de grandes entreprises, collaborent avec des banques, conseillent des fonds spéculatifs. Pourtant, ce ne sont jamais ces fonctions-là qui sont mises en avant. Lorsqu'ils sont invités dans les médias, c'est sous leur titre universitaire que les journalistes les présentent.
La question, c'est pourquoi les grands médias font-ils le silence sur ces collusions que j'ai appelées les liaisons dangereuses entre un certain nombre d'économistes qu'on invite systématiquement et les milieux d'affaires. Les citoyens, les auditeurs, les téléspectateurs regarderaient tout autrement un brillant économiste universitaire s'ils savaient que cet économiste est largement rétribué par les banques, les compagnies d'assurance et les sociétés privées.
Jean Gadret, professeur émérite d'économie, ce conflit d'intérêts que le téléspectateur, l'auditeur ou le lecteur ne voit pas encourage des discours biaisés, entretient par exemple l'imaginaire selon lequel les grandes infrastructures, les routes, les aéroports, les trains sont à la base de notre croissance. Mais c'est justement ce que vous dénoncez dans l'ouvrage collectif, le petit livre noir des grands projets inutiles que vous venez de publier, Stéphane Kerkhoff.
Oui, puis effectivement, mis bout à bout, ces projets d'autoroute, ces projets de ligne LGV, ces projets d'aéroport...
LGV, c'est ligne grande vitesse.
Ligne grande vitesse, en fait, nous dessine un environnement politique qui laisse supposer que, alors que ce soit les élus locaux ou les responsables nationaux, iraient chercher systématiquement dans les vieilles recettes du productivisme une façon de relancer ou stimuler ou simuler une activité économique atone pour essayer de créer de la croissance pour redistribuer et créer de l'emploi. Or, on voit bien que ces équations, mis bout à bout, déraillent systématiquement. Parce que, tout simplement, nous n'en avons plus besoin. La France, par exemple, a 6 fois plus d'aéroports qu'en Italie et 12 fois plus qu'en Allemagne. Et pourtant, on continue à en construire. On a l'un des principaux réseaux autoroutiers européens et pourtant, on veut encore agrandir de près de 10% ce réseau autoroutier. Alors que, globalement, on sait très bien que les autoroutes qu'on construit aujourd'hui ne sont plus viables économiquement et ne sont plus justifiées par une quelconque évaluation de trafic.
Mais pourtant, on voit que les députés se battent pour avoir ces grands projets chez eux.
Oui, alors j'ai une anecdote, c'est à l'époque où on parlait de SNIT, Schéma National des Infrastructures de Transport, il y a quelques années, le ministre des Transports était allé voir les parlementaires et avait commencé son intervention en disant « Derrière chaque parlementaire, je vois un promoteur d'un grand projet ». Et on a vraiment cette logique-là, c'est-à-dire que les barons locaux, les élus locaux veulent à tout prix marquer l'histoire.
Chacun veut faire le New Deal de Roosevelt finalement.
Oui, mais c'est bien pire que ça, c'est même pas du keynésianisme ou une volonté de relancer l'économie, c'est aussi de marquer le territoire de son empreinte à coups de béton.
Jean-Marie Haribet, je vous vois hocher la tête.
Parce que j'apporterai non pas une différence, mais une minuscule nuance, mais qui quand même a, je crois, son importance. C'est-à-dire qu'en soi, les infrastructures ne sont pas mauvaises. C'est-à-dire qu'il nous a fallu, pour assurer un certain nombre de choses, construire des infrastructures. Le réseau de chemin de fer, par exemple, bon, il a fallu des décennies pour le mettre sur pied. Et il a aujourd'hui besoin de rénovation. Et notamment dans le pour remettre à l'honneur tout le tissu de lignes secondaires. Et donc ça veut dire que le passage d'une économie où tout est fait pour la fuite en avant marchande à une économie différente, ce passage va être long. Il faut pas se le cacher, ça va nous prendre des années, et je suis souvent amené à dire des décennies. Et donc il va y avoir nécessairement une phase de transition pendant laquelle il va falloir mobiliser des investissements colossaux pour transformer nos systèmes de transport, transformer nos systèmes énergétiques, passer de tout nucléaire aux énergies renouvelables progressivement. Ça va prendre déjà un quart de siècle, hein, au moins un quart de siècle. Bon, les démanteler et construire de nouveaux réseaux, l'isolation des bâtiments et des logements. Bref, refaire un habitat, refaire un urbanisme. Bon, des investissements gigantesques. Donc, nécessité obligatoirement d'avoir une phase de transition. C'est pour ça que je ne pense pas qu'on passera d'un régime de croissance à un régime de décroissance. Et je pense qu'il va y avoir une phase de transition pendant laquelle il faudra diminuer les productions inutiles, voilà, et les projets qui ne sont pas aux besoins, mais il y aura des productions qui devront augmenter en termes de logement, en termes d'accès à la santé, à l'éducation, etc., etc. Et donc, c'est ça qui est très compliqué, c'est-à-dire amorcer cette phase de transition. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut réunir toutes les conditions possibles, c'est-à-dire que dès aujourd'hui, tous les investissements doivent obéir à ce critère de satisfaction des besoins sociaux et de respect des nouvelles normes environnementales. Et ça se décline pour reconvertir l'industrie, pour reconstruire, comme je l'ai dit, les systèmes de transport dans le sens de, non pas de lignes à super vitesse, mais d'un maillage du territoire. Tout le monde sait que les réseaux secondaires sont délaissés.
Alors, est-ce que justement le mot-clé, ce n'est pas relocalisation ?
Alors, la relocalisation fait partie de cela.
Raisonner à une plus petite échelle.
Ça me satisfait pas pleinement de dire on va maintenant raisonner à petite échelle. Il faut raisonner à une échelle locale, bien sûr, pour être au plus près de la satisfaction des besoins en termes d'accès aux services publics, d'accès.
Non, mais même d'alimentation, de transport,
bien sûr.
Etc.
Et en même temps, il y a un certain nombre de contraintes globales contre lesquelles il faut agir. Et donc, la signature de traités de libre-échange qui se profile à notre horizon dans plusieurs domaines, eh bien, va à l'encontre de cette espèce de recentrage sur les besoins essentiels.
Alors justement, nous sommes en ligne avec le député européen Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot. Bonjour.
Bonjour.
On parlait du traité transatlantique de libre-échange que les Européens négocient depuis 2013 avec les Américains. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi il consiste, ce traité ?
Cette négociation, elle est très spécifique parce qu'au fond, ça concerne deux grands blocs qui représentent près de 40% du commerce mondial, donc c'est considérable. Et en même temps, cet accord ne traite plus, comme on l'a fait dans le passé, des droits de douane qui sont là pour réguler un peu le commerce. Ça traite des normes. Et cet accord veut harmoniser nos règles, nos normes entre les États-Unis et l'Europe. Alors c'est très bien quand il s'agit d'harmoniser le poids du mannequin dans les tests de crash automobile. Le problème, c'est qu'il y a sur la table de négociation à la fois nos normes environnementales, le bœuf aux hormones, les OGM, le poulet chloré, les tests sur la chimie, il y a les services publics, il y a les marchés publics. Aux États-Unis, par exemple, on réserve en grande partie les marchés publics pour les PME, 23% des marchés publics américains, et on protège un certain nombre de secteurs comme la sidérurgie et d'autres choses, ce que ne veulent pas faire les Européens. Donc on est sur la protection des consommateurs, on est sur la protection des données privées. On sait à quel point, pour les États-Unis, les données privées, notamment en informatique, sont des données au fond commerciales, alors que nous considérons que c'est la liberté individuelle. Donc tout est sur la table des négociations, et à partir du moment où l'idée derrière des grandes firmes, c'est d'harmoniser, de standardiser les normes entre les États-Unis et l'Europe, ça va remettre en cause nos normes européennes comme certaines normes américaines. Et puis, dernier point, essentiel de cette négociation, c'est l'idée que les investisseurs pourront attaquer les États quand les États, au niveau fédéral, au niveau des États comme les États européens ou les États fédérés aux États-Unis, comme au niveau régional, les investisseurs, les entreprises pourront nous attaquer quand nous prenons des décisions qui remettent en cause leurs profits. Si vous voulez, si l'accord était déjà en place depuis plusieurs années, des firmes américaines pourraient attaquer la France parce qu'aujourd'hui elle bloque toujours l'exploitation de gaz de schiste, qu'elle empêche la culture d'OGM ou que la France a interdit le bisphénol A dans nos biberons.
Et ce n'est pas un fantasme, hein, puisque ce type de mécanisme existe déjà et il y a de nombreux États qui ont déjà payé des milliards de dollars à des entreprises suite à des changements de législation. Alors justement, sur ce thème-là, il y a une mobilisation citoyenne hein, pour éviter que cela passe. Il y a eu des pétitions et puis il y a eu un appel à la contribution publique. On en est où ?
La Commission, cette semaine, a rendu son rapport sur la consultation publique. Il y a eu plus de 150 000 réponses d'organisations et de citoyens européens. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la Commission européenne. Et ce qui est absolument dramatique, c'est que la Commission européenne veut, d'une certaine façon, réduire au silence l'opposition des citoyens européens. Parce qu'elle considère qu'il y a trop de réponses identiques. Et donc, finalement, il y a 145 000 réponses proches de citoyens européens qui ont été mobilisés par les syndicats, l'ensemble des syndicats, l'ensemble des associations de consommateurs, que ce soit en Europe, aux États-Unis, les organisations environnementales, même les organisations de PME en Europe, s'expriment contre ISDS. Mais ça, ça n'intéresse pas la Commission européenne, qui préfère dire « moi, je veux faire évoluer ce système » qui transfère notre souveraineté démocratique vers les entreprises, je veux le faire évoluer et je ne veux pas imaginer le remettre en cause. Donc la Commission européenne veut réduire au silence l'opposition des citoyens européens, comme elle a déjà voulu le faire en refusant aux citoyens européens l'initiative citoyenne qu'ils avaient lancée, qui a aujourd'hui 1 200 000 ou 1 300 000 signatures, je ne sais pas où on en est. C'est toujours cette idée qu'il faut favoriser les firmes multinationales contre les citoyens, contre la démocratie et contre beaucoup de PME en Europe.
Et quel est l'agenda maintenant ?
L'agenda, c'est avec le nouveau congrès qui s'est mis en place il y a quelques jours, avec cette nouvelle Commission européenne, c'est de relancer les négociations, et y compris, encore une fois, pour dire que, au fond, nos normes ne protègent pas l'environnement, la santé. Aujourd'hui, ce sont des contraintes pour un certain nombre de grands groupes. Cet agenda des firmes, porté par la Commission européenne, soutenu par les États, et il faut dire toute l'ambiguïté de la France sur ces sujets, ne correspondent pas, encore une fois, et à la fois à nos perspectives économiques, pour rappeler que des évaluations aujourd'hui disent que l'accroissement des exportations, des échanges entre l'Europe et les États-Unis qui seraient liés à cet accord, en fait, sont une réduction de nos échanges intra-européens pour faire plus de commerce avec les États-Unis. Et il y a même une étude qui dit que ça va détruire 600 000 emplois en Europe, dont 130 000 en France. Donc il faut un peu de bon sens. L'avenir économique de l'Europe, ça n'est pas de fournir ou de favoriser les profits d'un certain nombre de grandes multinationales du médicament, des services de l'eau, des services des déchets et d'autres, ou des grands groupes énergétiques qui font du gaz de schiste, des sables bitumineux ou du pétrole. L'objectif de l'Europe, ça doit être d'aller vers l'économie des PME, l'économie de la transition énergétique, l'économie qui finalement répond aux soucis de protection des citoyens, plus d'emplois, plus de santé, plus d'environnement, plus de services publics.
Merci Yannick Jadot.
Merci beaucoup.
Jean-Marie Haribet, on n'est pas du tout là dans la phase de transition que vous préconisez dans le manifeste des économistes atterrés.
Mais l'abaissement des normes qui est contenu dans les projets de traités de libre-échange va produire des risques en termes de santé publique extraordinaires. Il y a eu la semaine dernière dans le journal Les Échos, qu'on ne peut pas soupçonner de grande sympathie envers les opposants à ces traités, il y a un article montrant que maintenant le risque était avéré qu'il y ait une baisse de la santé publique si ces traités étaient adoptés et mis en œuvre, parce que l'abaissement des normes fera qu'il y aura moins de protection pour la population. Et on avait peut-être pu se réjouir que l'Organisation mondiale du commerce échoue à faire accepter des traités multilatéraux de libre-échange à l'ensemble des pays de la planète. Et en fait, devant l'échec de l'OMC, se profilent maintenant des choses peut-être encore plus dangereuses. C'est-à-dire que tous les traités bilatéraux entre deux États ou bien entre deux groupes d'États contiennent les mêmes dispositions que collectivement, il aurait été beaucoup plus difficile de faire accepter par l'ensemble des pays de la planète. Et donc, Yannick Jadot l'a parlé des risques sur l'emploi. C'est le deuxième grand risque, c'est qu'effectivement, alors que le chômage a explosé partout et que très peu de pays arrivent à inverser les courbes, la direction vers de nouvelles activités beaucoup plus écologiques serait sans doute susceptible de procurer en même temps beaucoup plus de création d'emplois que les activités qui sont soumises quotidiennement à la rationalisation, à la diminution des coûts du travail, alors que ce sont les coûts du capital qui pèsent essentiellement sur la société. Et si on met bout à bout, finalement, ces objectifs d'ordre social et ces objectifs de transition, que ce soit en matière énergétique ou en matière de transport, ou de reconstruction de logements isolés thermiquement, je crois qu'on a à la fois la possibilité d'engager la transition écologique dont on a besoin et en même temps de répondre à des besoins totalement non satisfaits aujourd'hui.
Stéphane Kerkhoff.
Oui, ce qu'on constate, c'est que la transition écologique, ça ne sera pas une génération spontanée. C'est-à-dire qu'il va falloir des outils pour pouvoir conduire cette transition écologique. Alors, il n'y en a pas 36, il y a l'information, la fiscalité, la réglementation. Ce qu'on voit, c'est que sur la fiscalité, on entend assez régulièrement la ministre de l'écologie considérer que c'est de l'écologie punitive. Sur la réglementation, on voit que la France est en train de négocier, dans le cadre de l'Union européenne, une dérégulation via TAFTA. Donc, il nous reste une chose, c'est l'information, c'est-à-dire le ministère de la parole et la gesticulation.
Ce que l'on fait en ce moment.
Oui, sauf qu'on n'est pas en charge de la conduite des affaires du pays. Donc on sera en droit de se dire que globalement, un ministre, un gouvernement, un État a plutôt à sa disposition de la réglementation, de la fiscalité et de l'information pour expliquer. Or, aujourd'hui, ils se sont départis des deux premiers outils. Donc, évidemment, on se retrouve avec, une fois encore, une sorte de ministère de la parole pour saturer l'opinion publique de bons mots. Sauf que pour résoudre les mots écologiques, il faut autre chose que du verbiage.
Et il faut comprendre pourquoi tous les gouvernements successifs ont échoué à mettre en place une fiscalité écologique. C'est parce que cette fiscalité écologique ne peut vraiment réussir que si on en profite pour remettre à plat l'ensemble de la fiscalité. Si on met des taxes sur le transport, sur le gazole, sur le carbone, etc., sans accompagner cela par une fiscalité beaucoup plus progressive que celle que nous connaissons aujourd'hui, eh bien la fiscalité sur le gazole, ça va pénaliser ceux qui habitent dans les banlieues lointaines et qui sont obligés de prendre leur voiture le matin pour aller travailler. Et donc, la cause profonde de l'échec de mise en place en France d'une fiscalité écologique tient à la non-volonté de mettre en place une véritable fiscalité progressive. Et là, pourquoi celle-ci n'est pas réformée? Eh bien, parce qu'il y a tous les lobbies patronaux, financiers et des classes dominantes qui s'opposent à ce que l'on remodèle dans un sens un peu plus progressif la fiscalité. Donc, fatalement, tant qu'on s'attaquera pas à ce problème-là, la fiscalité écologique n'a pas beaucoup de beaux jours devant elle.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
On a fabriqué des églises, des grands palais, des cours d'assises pour lui. On a dessiné des frontières et rangé la paix au vestiaire pour lui. On a façonné un mur entre les ventres creux et les gros ventres pour lui. La bonté n'est plus qu'une enclave, un fœtus, un futur esclave pour lui. Lui que l'on prie tous à genoux, à qui l'on offre tant de vie. Commandant au-dessus de nous les manettes de nos envies. Dieu le seul, le vrai, l'unique. Le fric. Tout le monde reprend en cœur l'air du travail à contre-cœur pour lui. On se fait voleur plutôt pire en marchant de tous nos soupirs pour lui. Asservi, aveugle et muet devant ses misères créées pour lui. On se dégonfle, on s'accroupit en renonçant à l'utopie pour lui.
Oui, le magicien qui transforme les chefs d'État en marionnettes. Pour ces démocraties conformes à ses idées de proxénètes. Le Dieu le seul, le vrai, l'unique. Le fric.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous parlons de l'urgence de repenser nos modèles économiques en dehors du culte de la croissance pour parvenir à une meilleure redistribution des richesses tout en préservant l'environnement. Mais pour cela, il faut, on le disait, du courage politique. Aujourd'hui, 75% de la population mondiale vit en ville. La ville pourrait donc être le bon échelon pour agir et certains maires s'y attellent. Bonjour Jean-François Caron.
Bonjour.
Vous êtes le maire de la ville de Losangoël dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est dans le nord de la France, et vous avez innové dans de nombreux domaines dans votre ville, car pour vous, c'est une échelle justement où il est possible d'agir.
Oui, moi j'ai coutume de dire que le territoire, c'est un chaudron dans lequel vous avez tous les ingrédients. Vous avez les habitants, vous avez la question technologique, vous avez le rapport à l'espace naturel, vous avez la question des déplacements. Enfin, ce qui se joue à l'échelle du territoire, c'est un raisonnement d'écosystème. La ville de Losangoël a 7000 habitants et c'est un très bon échelon parce que si vous êtes à 100 000 habitants, on a des difficultés pour être en contact direct avec chaque personne, il y a des effets d'échelle. Et si vous avez 300 habitants, vous n'avez pas les moyens de la mise en œuvre.
Alors justement, vous avez mis de nombreuses choses en place, notamment dans le domaine de l'énergie. Alors vos premières actions ont consisté à limiter la consommation.
Oui, depuis 1997, tous nos appels d'offres sur l'habitat, le bâtiment en général, sont dans les logiques, à l'époque on disait HQE, ensuite les termes ont évolué.
Haute qualité environnementale.
Voilà, bon, tout ce qui est l'éco-construction sous toutes ses formes, et donc on a des réalisations dans tous les domaines. Les dernières en date, sur le neuf, mais c'est le plus facile, c'est un habitant qui m'a amené sa facture l'an dernier, 197 € de chauffage à l'année, dans un T4 de logement social. Donc il y a une dimension environnementale, il y a une dimension sociale très forte, parce que c'est des économies conséquentes hein, pour les familles. Puis il y a aussi une dimension emploi, parce que simultanément on a engagé la réhabilitation à grande échelle, on est devenu d'ailleurs un pôle économique dans le Nord-Pas-de-Calais, même au-delà, parce qu'il y a un cluster autour de ces questions-là, d'efficacité énergétique dans le bâtiment, et ce qu'on voit c'est que ça déclenche un effet emploi important. En résumé, plutôt que donner vos milliards aux émirs du Qatar ou aux Russes sous des formes diverses, il vaut mieux le mettre dans les entreprises de chez nous qui vont venir isoler nos bâtiments, qui vont créer de l'emploi local. Et c'est tout bénéfique pour la France, pour nos communes, pour nos salaires, pour notre pouvoir d'achat.
Et vous avez d'ailleurs développé aussi des énergies renouvelables sur le territoire.
En fait, on agit sur trois registres. Le premier, celui qu'on vient d'évoquer, c'est l'efficacité énergétique, donc diminuer les consommations. C'est aussi, par exemple, apprendre à consommer en circuit court. Parce que derrière un yaourt qui a fait le tour de l'Europe, il y a beaucoup de pétrole consommé et il y a un trend de phytosanitaire, enfin dans une agriculture intensive. Si vous prenez du yaourt bio de proximité, vous avez un effet sur les gaz à effet de serre considérablement diminué. Et puis la troisième dimension, c'est les énergies renouvelables. Donc on a un totem, on a deux totems. On en a un qui est le toit de l'église qui est intégralement en capteur photovoltaïque. Mais on a aussi une centrale solaire au pied des terris. On a nos écoles avec des chaufferies bois, on a le foyer logement, donc l'eau chaude pour les personnes âgées avec du solaire thermique. Enfin, on a différentes formes et c'est ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire que c'est vraiment la réponse adaptée à un territoire. Il y a des endroits où il y a du vent, il y a des endroits où il y en a moins. Et c'est tout ce travail-là qui relève d'une stratégie générale sur l'énergie. Moi, je dis souvent, la durabilité, c'est invisible. Et donc, il faut la rendre visible pour que les habitants puissent se l'approprier et puissent l'amplifier.
Merci Jean-François Caron. Alors, Jean-Marie Arribet, est-ce que ce qui est possible à l'échelle d'une ville de 7000 habitants est possible au niveau national ?
Tout à fait. Mais alors, je vais en profiter, puisque l'émission se termine, pour développer un point qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les budgets publics sont délégitimés. Or, un budget public sert à préparer l'avenir. Et on a beaucoup parlé de l'inflation de la dette publique, mais cette dette publique, elle n'est pas due au fait qu'on a trop dépensé pour préparer l'avenir. On a trop dépensé pour pallier la baisse des recettes fiscales, l'endossement des dettes privées avec la crise. Et donc, je pense que si les budgets publics étaient dorénavant orientés vers la préparation de l'avenir, avec tous les investissements dont j'ai parlé tout à l'heure et dont on a besoin, je crois que les choses se présenteraient tout à fait différemment. Donc, il n'y a pas de raison raison de crier haro sur la dépense publique. Hein. La dépense publique n'est pas fauteuse d'inflation si c'est pour préparer l'avenir, parce qu'il y aura une richesse qui sera créée dans les années à venir. Et donc nos descendants n'hériteront pas d'une dette, mais des bénéfices qu'ils pourront tirer de la préparation que nous envisagerons à notre échelle. Donc la relégitimation des budgets publics doit être un souci tout à fait présent, de façon à ce que toutes les expériences locales puissent justement s'épanouir. Sinon, ça sera très vite l'échec.
Donc pour conclure, ce qui manque finalement, ce ne sont pas les outils, ce ne sont pas les idées, mais un manque de maturité politique.
Sans doute aussi, mais je le dirais d'une autre manière. C'est que les élus, le plus souvent et trop souvent, expriment les intérêts de ceux qui n'ont pas intérêt à ces changements profonds parce que leur situation de privilège risquerait d'en pâtir. Nos élus ne sont pas plus mauvais en soi que le reste de la population, mais seulement les intérêts qu'ils mettent en avant ne sont pas ceux qui répondent aux besoins des couches sociales qui auraient le plus intérêt au changement.
Et Stéphane Kerkhoff, on peut compter sur un certain nombre de citoyens pour le rappeler.
Oui, et en espérant que les responsables politiques fassent œuvre de cohérence. Il y a une formule qui résume bien, c'est gouverner, c'est choisir. On ne pourra pas tout à la fois investir dans un nouveau réacteur EPR de 8 milliards d'euros et développer les énergies renouvelables.
Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Je rappelle le titre des livres auxquels vous avez participé, Le nouveau manifeste des économistes atterrés, publié aux éditions Les liens qui libèrent, et Le petit livre noir des grands projets inutiles, aux éditions Le passager clandestin. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde. Pour réagir ou témoigner, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr ou sur Facebook et Twitter, hashtag c'estpasduvent. Demain, nous parlerons biodiversité avec Gilles Boeuf, le président du Muséum français d'histoire naturelle, qui nous expliquera que les changements climatiques sont en train de créer des bouleversements à une échelle inouïe. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres, et à demain, même planète, même heure.